France Culture. Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Le verdict est tombé hier. L'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, est condamné à 27 ans et 3 mois de prison pour tentative notamment de coup d'État. Un seul des 5 juges de la Cour suprême n'était pas favorable à cette condamnation. Bolsonaro et 7 de ses plus proches collaborateurs sont donc condamnés pour avoir fomenté un coup d'État après avoir perdu les élections. On se souvient notamment de l'attaque menée par ses partisans sur la place dite des Trois Pouvoirs le 8 janvier 2023. Réplique de la prise du Capitole menée par son mentor Donald Trump en janvier 2021. Alors, le Brésil montre-t-il la voie pour faire justice lors des attaques contre la démocratie ? Ce procès est-il le signe de l'achèvement de la transition démocratique du Brésil ? Pour nous éclairer ce soir, une invitée, Maud Chirio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, maîtresse de conférence à l'université Gustave Eiffel et autrice de l'ouvrage intitulé « Mon cher Lula, lettre au pluriel à un président en détention », un livre qui a paru en 2022 aux éditions Adamossa.
Je fixe la peine finale du prévenu Jair Messias Bolsonaro à 27 ans et 3 mois, dont 24 ans et 9 mois de réclusion et 2 ans et 6 mois de détention.
Jair Messias Bolsonaro est jugé pour les crimes qu'il a commis. Participation à une organisation criminelle armée dont il était le chef, tentative d'abolition violente de la démocratie, organisation d'un coup d'État et détérioration de biens publics.
27 ans et 3 mois de prison pour Jair Bolsonaro. Qu'est-ce que cela représente ? Est-ce que c'est une peine dure ? Est-ce que c'était une peine qui était attendue ? Comment vous la lisez ?
C'est une peine qui était attendue. Il risquait jusqu'à 43 ans de détention avec l'accumulation des peines pour les différents chefs d'accusation, puisqu'il y a tentative de coup d'État, mais il y a tout un tas d'autres chefs d'accusation. Donc c'est une peine attendue à la mesure des actes commis et qui surtout s'applique aux autres co-accusés, à la quasi-totalité du noyau crucial des co-accusés, c'est-à-dire 7 des 8. Le seul qui écope d'une peine plus légère est celui qui a fourni les témoignages et le dossier documentaire qui a permis les condamnations. Donc c'est une peine qui permet d'imaginer que, à moins qu'il y ait un changement radical de la composition de la Cour suprême et du législatif, l'ensemble de ces hommes, qui sont tous âgés, passent le reste de leur existence derrière les barreaux.
On ne parle pratiquement que d'un seul et unique chef d'inculpation, la tentative de coup d'État. Or, vous l'avez dit, il y en a d'autres, et un peut-être marque plus que les autres, c'est, j'allais dire, en 2024, la découverte que dans le fond, il voulait assassiner Lula, son opposant politique.
Alors ça fait partie de la chef d'accusation de tentative de coup d'État. Les autres chefs d'accusation, c'est le fait d'avoir organisé une organisation criminelle, c'est-à-dire non seulement avoir fomenté le non-respect du scrutin, mais pour cela s'être organisé avec différents acteurs militaires, paramilitaires, policiers, membres des renseignements, avoir organisé la collecte d'armes, de munitions, avoir prévu des collectifs juridiques pour préparer un régime d'exception dans la foulée d'un coup d'État, et pour permettre ce coup d'État, l'assassinat, l'empoisonnement de Lula, de son vice-président et du juge de la Cour suprême, largement moteur du système accusatoire qui est Alexandre de Moraes. Donc, il y a ces chefs d'accusation liés à la conspiration, et puis il y a les chefs d'accusation qui ont à voir avec l'incitation aux dommages contre le patrimoine public, c'est-à-dire le fait d'avoir incité les manifestants à organiser des campements devant les casernes et ensuite d'attaquer la place des Trois Pouvoirs, qui a mené à des dégradations extrêmement importantes du patrimoine public.
Justement, rappelez-nous précisément ce qui s'est passé le 8 janvier 2023 sur cette place des Trois Pouvoirs.
Alors, il s'est passé quelque chose, en fait, qui se préparait depuis un certain temps, puisque au moment où Bolsonaro a connu une défaite courte, mais absolument indéniable, ses partisans, des milliers de ses partisans, n'ont pas reconnu la défaite et ont occupé la rue, en reprenant des pratiques d'occupation, d'ailleurs, qui ne sont pas spécifiquement de droite ou d'extrême droite, et se sont installés devant les casernes de tout le pays pour appeler les militaires à intervenir contre le scrutin, contre le respect du scrutin. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est complètement surprenant en début janvier, puisque ça fait 2 mois qu'il existe des milliers de partisans qui campent devant les casernes sans être jamais réprimés ni par les militaires, ni par des forces de police. Et ce sont exactement ces gens-là qui vont à un moment s'organiser clandestinement pour converger vers Brasilia et prendre ces institutions qui sont les trois pouvoirs, hein, la Cour suprême, les deux instances législatives et le palais présidentiel. C'est ça qu'on a vu. À l'époque, on ne voyait que ça. Il semblait qu'il n'existait pas un coup d'État en cours, mais une insurrection de militants radicaux qui n'étaient pas réprimés par leurs leaders et les différents chefs politiques et militaires qui auraient pu les appeler au respect du scrutin. Et jusqu'au milieu de l'année 2024, il semblait qu'il n'y avait pas eu de conspiration, mais un phénomène de résistance publique, comme on a pu le voir dans d'autres pays, dénonçant la fraude des élections. Au Brésil, le scrutin passe par des urnes électroniques. Et depuis son mi-mandat, Bolsonaro indiquait « si jamais je perds, c'est parce qu'il y aura une fraude avec un piratage des urnes électroniques ». Donc, tout ça a été préparé. Il semblait s'accomplir ce qui était prévu, c'est-à-dire une résistance du secteur le plus militant, qui avait abouti à des dégradations massives, assez terribles et assez outrageantes pour les pouvoirs de la République, mais qui ne semblait pas révéler quelque chose en profondeur. Et ce qui est apparu lors de l'instruction, c'est que cet acte public, militant, collectif, qui a impliqué des milliers de personnes, c'était la pointe de l'iceberg, et que sous ces manifestations insurrectionnelles, il y avait une organisation très solide pour tenter de renverser le pouvoir.
Justement, quand vous en faites le récit ex poste, on se dit que tout est limpide. Néanmoins, au cours du procès, est-ce que la responsabilité directe de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été compliquée à établir, à démontrer ?
Alors, elle a été compliquée à démontrer, oui et non, puisque dans un coup d'État, pour l'histoire des coups d'État en porte la trace, il est assez rare que des réunions qui se déroulent à l'agenda officiel des principaux responsables politiques, à ce moment-là, il est toujours président d'exercice, hein, soit indique qu'il s'agit avec un objet de conspiration en vue d'abolir l'État de droit. Et donc, évidemment, Bolsonaro a été mis à l'écart de ce qui a le plus produit de preuves documentaires, que ce soit des enregistrements de conversations, et y compris des documents, des listes de documents qui devaient porter la logistique du coup d'État.
Donc l'implication n'était pas évidente ?
Alors l'implication, en fait, elle apparaît par des témoignages convergents et par l'absence totale d'empêchement par Bolsonaro de quelque chose dont il avait connaissance et dont là on est. Il est établi qu'il avait connaissance depuis le début de ce qui était en train de se passer avec un cercle qui est un cercle d'une proximité absolue. Braga Neto, qui était son ancien directeur de cabinet et ministre de la Défense, Augusto Heleno, qui était le chef de sa sécurité personnelle, son aide de camp, c'est-à-dire les gens avec qui il se réunissait et prenait ses repas depuis 4 ans, étaient toute la journée investi dans la conspiration. Il a été établi de par quasiment un consensus de la section de la Cour suprême qui a jugé qu'il s'agissait d'une stratégie pour le protéger d'une extrême exposition et non pas de son moindre investissement. Mais c'est évidemment ce qu'a mis en avant la défense sans pouvoir parvenir à son
Ce n'est pas la première fois que Jair Bolsonaro a été condamné le 30 juin 2023. Il a été condamné à 8 ans d'inéligibilité pour abus de pouvoir et utilisation indue des moyens de communication. Est-ce que là aussi, ce deuxième procès s'inscrit dans une procédure plus longue qui en réalité a démarré depuis plusieurs années ?
Alors oui, il est inculpé et même condamné pour beaucoup de méfaits hein, et de délits et de crimes commis lorsqu'il était en exercice. Non seulement la manipulation de l'opinion pendant la campagne qui a mené à sa propre élection, hein, avec l'achat massif de comptes WhatsApp en particulier et la divulgation de fausses nouvelles, quelque chose qu'on a su très très rapidement après l'élection. Et puis il est l'objet d'enquêtes sur d'autres faits liés à la gestion de la pandémie, aux achats de vaccins, à de mésusage de biens publics. Donc c'est quelqu'un qui est déjà l'objet de multiples instructions et de multiples condamnations, avec la différence qui est que ces instructions portent sur des délits qui ont été commis dans sa propre gestion du pouvoir et non pas le projet d'abolir le régime. Parce qu'on parle de quelqu'un qui est un opposant à la République comme figure politique depuis les années 90, depuis que c'est un parlementaire, il a été élu en 92, il se distingue sur la scène politique en étant un opposant au régime républicain issu de la transition démocratique. C'est pas simplement quelqu'un de droite ou d'extrême droite sur la scène politique, il est hostile à la République. Et cette condamnation, elle boucle la boucle, c'est-à-dire qu'elle fait de ce personnage qui a toujours été un apologue de la dictature, qui n'a jamais condamné le coup d'État, et qui a toujours discrédité la Nouvelle République, à être condamné justement pour des actes qui sont en continuité avec ses idéaux autoritaires.
La voix d'un homme qui a suivi de très très près ce procès hors norme, je veux parler du président des États-Unis, Donald Trump, qui réagissait hier sur CNN.
Well, I watched that trial. I know him.
J'ai suivi ce procès. Je le connais assez bien, c'était un bon président du Brésil. Et je trouve très surprenant que cela ait pu arriver. C'est très similaire à ce qu'ils ont essayé de faire avec moi. Mais ils ne sont pas arrivés à leur fin. Mais je ne peux dire que ceci. Je l'ai connu en tant que président du Brésil, c'était un homme bien, et je ne vois pas comment cela a pu arriver.
Les parallèles entre les deux hommes sont hallucinants lorsqu'on vous entend faire le récit justement de cette tentative de coup d'État au Brésil. Pourquoi Donald Trump regarde-t-il de si près ce procès ?
Alors, il y a de nombreuses raisons. La première raison, c'est qu'il parle à son propre public. Il parle d'abord à l'opinion américaine. La tentative de coup d'État, et en particulier sa partie publique, est une telle réplique de ce qui s'est passé à la fin de son premier mandat que la solidarité politique à l'égard de l'ancien président est une manière de parler à son propre camp et de dire c'est tout à fait normal ce qu'on a fait, il est légitime que lorsque un sauveur de la nation comme Bolsonaro ou moi-même tente de demeurer légitimement au pouvoir, il ne soit pas l'objet de persécutions ultérieures. Donc il parle à son propre camp. D'autre part, les réseaux bolsonaristes et au-delà de certains réseaux de l'extrême droite brésilienne sont très connectés à des réseaux d'extrême droite trumpiste depuis longtemps et de manière renouvelée depuis le mandat de Bolsonaro, avec tout un tas de militants, d'activistes et d'hommes politiques qui sont présents aux États-Unis, qui sont en contact très proche avec plein de membres de l'équipe de Trump, au premier rang desquels l'un des fils Bolsonaro, qui, bien que député au Brésil, vit aux États-Unis et grenouille en permanence dans les réseaux trumpistes. Donc le lobbying du fils Bolsonaro a été extrêmement efficace. Et enfin, troisième grand aspect, Trump impose sa domination à l'égard du Brésil et des destinées de la démocratie brésilienne, comme il le ferait à l'égard d'un petit pays soumis sur lesquels il impose sa volonté par les tarifs, par tout un tas de mesures de rétorsion qu'il impose au monde. C'est sa stratégie diplomatique et le fait de l'imposer au Brésil en ce moment, Brésil qui continue d'être une figure des BRICS, qui continue d'être une figure d'une diplomatie multipolaire, c'est une manière de tenter de montrer que non, le Brésil n'aura pas une trajectoire diplomatique divergente. Il faut savoir, une petite précision, que La présidente de la Banque des BRICS, c'est Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, c'est la personne qui a été la première victime adversaire politique de Bolsonaro. Bolsonaro, il est devenu visible sur la scène politique nationale en avril 2016, lorsqu'il a dédié son vote au Parlement en faveur de la destitution de Dilma Rousseff aux tortionnaires de Dilma Rousseff. C'est comme ça qu'il est apparu sur la scène publique. Il a dit « je dédie mon vote au colonel Oustre, la terreur de Dilma Rousseff ». Et donc, il existe aussi cette connexion qui est de d'écraser ces figures du progressisme brésilien qui, actuellement, sont revenues sur la scène diplomatique internationale et politique internationale en défendant leur principal adversaire, qui est l'ancien président Bolsonaro.
Je voudrais, Maud Chirio, que l'on revienne un instant sur ce procès qui a vu la condamnation de Jair Bolsonaro. Sur ce qu'il représente symboliquement, déjà, c'est la première fois qu'un chef d'État au Brésil, que des militaires, même des gradés militaires, sont condamnés pour une tentative de coup d'État. C'est une première.
Tout à fait. Alors, le Brésil, comme le reste de l'Amérique latine, comme la plupart des pays d'Amérique latine, a connu de nombreux coups d'État au cours de son existence républicaine. D'ailleurs, la République au Brésil est née en 1889 par un coup d'État militaire. Et à la suite de cette proclamation de la République, il y a eu un très grand nombre de ruptures violentes de désordres constitutionnels successifs par des coups d'État qui ont été soit directement réalisés par des militaires, soit appuyés par des militaires. Et systématiquement, l'ensemble de ces changements de régime n'a jamais débouché sur des procédures par les régimes démocratiques qui ont succédé, non seulement de
Comment est-ce qu'on l'explique ? C'est la volonté d'apaiser, c'est la volonté d'effacer. On pense notamment à cette grande loi d'amnistie de 1979 qui déresponsabilisait l'ensemble des personnes qui avaient pris part et à la dictature et à un coup d'État.
Alors, il y a deux manières de l'expliquer qui sont toutes les deux nécessaires. Il y a le fait que en Amérique latine, le fait que les forces politiques rompent très fréquemment au cours du XXe siècle la légalité constitutionnelle fait que les amnisties font partie du jeu politique. L'adversaire d'hier, qui rompt la constitutionnalité, revient par une amnistie sur la scène politique et se réalise.
C'est pratique.
C'est pratique. Au Brésil, cette logique-là a été plus poussé qu'ailleurs, a été non seulement à traverser le XXe siècle et surtout à résister à la culture des droits de l'homme et du nunca mas, de l'impunité des années 80 qui s'est imposée partout ailleurs, qui s'est imposée au Chili, qui s'est imposée en Uruguay, qui s'est imposée évidemment en Argentine. Le Brésil est le seul pays où la loi d'amnistie que les militaires se sont auto-attribués, n'a jamais été remise en cause. Jamais. Depuis 1979, la loi d'amnistie de 1979, c'est une loi que les militaires se sont attribués eux-mêmes, quand ils étaient encore au pouvoir, et la transition démocratique brésilienne n'a jamais remis en cause, donc aucun militaire n'a jamais été condamné, ni pour atteinte à la démocratie, ni pour crime contre les droits de l'homme, répression, torture, assassinat politique. Pourquoi au Brésil, ce serait différent d'ailleurs ? Il y a plein d'explications qui sont toutes insatisfaisantes. L'une d'elles est que c'est une société politique qui s'organise autour de la conciliation permanente entre élites exerçant une violence contre les catégories populaires. Et quand on regarde l'histoire du Brésil, les élites finissent toujours par s'accorder les unes les autres. Et que les élites qui ont été au pouvoir sous la Nouvelle République ont été des élites qui ont établi des pactes avec les hommes politiques, les milieux d'affaires et les militaires qui étaient toujours présents au sein de l'appareil d'État ou sur la scène politique et qu'il était trop compliqué ou pas dans la tradition politique d'effacer en faisant des grandes mesures d'épuration et de condamnation comme ça a eu lieu en Argentine.
Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a permis finalement de faire sauter ce verrou quasi-institutionnel que vous décrivez et qui a conduit Jair Bolsonaro à être effectivement et jugé et condamné ?
Alors, d'abord parce que il y a eu une véritable alternance avec l'arrivée de Lula au pouvoir et que c'est très clairement une alternance de l'adversaire politique principal du gouvernement précédent. C'est-à-dire que il y a une continuité au sein de l'appareil judiciaire, évidemment au sein du législatif, mais dans l'exécutif, ceux qui reviennent au pouvoir ont été ceux qui ont été mis en prison par le gouvernement précédent, ce qui a permis de donner un ton de transition démocratique au début du mandat de Lula. Le premier discours, son discours d'investiture, est un discours de transition démocratique, où il indique que les crimes du bolsonarisme seront punis, que les victimes du bolsonarisme seront reconnues, c'est-à-dire c'est un discours qu'on entend en général dans des contextes post-guerre civile ou post-dictature. Et ce ton a été scellé par la violence politique qui s'est révélée, qui était inédite. C'était une atteinte complètement inédite au symbole de la démocratie et qui a mené déjà à des procès contre l'ensemble des militants qui ont été directement responsables.
Il faut, pardonnez-moi, peut-être aussi parler d'un homme en particulier qui a eu un rôle central dans ce procès, un rôle central dans cette Cour suprême. Décrivez-nous justement ce juge qui a pris le taureau par les cornes, si je puis dire.
Alors, Alexandre de Moraes, c'est quelqu'un de particulier et qui a un profil qui ressemble à d'autres juges de la Cour suprême, c'est-à-dire, c'est pas un homme de gauche. C'est pas un homme qui a une histoire progressiste, c'est un homme qui navigue entre la politique et le droit depuis 40 ans, mais qui n'est pas identifié au camp progressiste, qui est le cas d'autres juges de la Cour suprême. Mais ce personnage-là, c'est un personnage qui s'est positionné à partir du mandat de Bolsonaro comme une figure politique qui devenait le garant de la Constitution. Pas simplement à l'occasion de la tentative de coup d'État, mais au cours de l'ensemble du mandat de Bolsonaro, à chaque fois que le gouvernement dérogeait à ses fonctions constitutionnelles, la Cour suprême, et en particulier Moraes, a intenté des procédures contre des membres de l'exécutif et contre d'autres membres du camp conservateur. Donc ça fait un certain temps, en fait, que la Cour suprême se positionne comme le garant de l'État de droit contre ce qu'il pouvait y avoir d'antidémocratique ou d'anticonstitutionnel. C'est une raison pour laquelle, dans le camp bolsonariste, la Cour suprême est devenue le démon. Ça fait depuis 2019 que la Cour suprême est considérée comme une instance d'une république en toge et qui serait hostile à la volonté du peuple. Et il y a eu un peu un déviement de l'hostilité institutionnelle. L'antiparlementarisme classique de l'extrême droite est devenu une hostilité aux institutions judiciaires. Et selon mon regard, cette position de plus en plus affirmée du suprême de gardien de la Constitution, elle est aussi liée à l'hostilité que lui a avouée depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans ce camp politique qui a discrédité l'existence de la Cour suprême. En début 2019, l'un des fils Bolsonaro, à la première déclaration d'un des juges de la Cour suprême contre une action du gouvernement, disant « Moi, je ferme la Cour suprême avec un soldat et un caporal ». C'est le ton de l'ensemble du mandat qui a, paradoxalement ou de manière logique, finalement renforcé la stabilité institutionnelle du judiciaire.
En quelques mots, comment les partisans de Jair Bolsonaro ont réagi à la décision de justice qui a été rendue hier, à sa condamnation ? On voit notamment que certaines voix s'élèvent pour demander une amnistie initiée par le Parlement.
Alors, à la fois de manière assez attendu quand on a vu les grandes manifestations du 7 septembre, qui est le jour de la fête nationale, où il y a une forte manifestation des bolsonaristes contre le procès, avant la déclaration de la condamnation. Ces masses-là militantes, un peu miliciennes, hein, on peut établir une comparaison avec des mouvements fascistes, il n'y a pas de chemise noire, mais il y a ces masses militantes violentes, auto-organisées, qui sont très très hostiles et très attachées à leur leader. Cela porte une revendication de réduction de peine à l'argument de l'âge et des conditions de santé de Bolsonaro et la revendication de l'amnistie. Oui, vous voulez me
dire.
Mais il faut voir aussi que on a tendance à dire de l'extérieur que cette condamnation, dans une société polarisée autour de l'extrême droite, doit polariser l'ensemble de la société. C'est pas l'impression que j'ai. L'impression que j'ai, c'est que c'est une condamnation qui divise l'extrême droite, qui l'affaiblit profondément parce que de fait, Bolsonaro et l'ensemble de sa génération politique très liée à l'armée est en train de sortir de la scène politique, ce qui suscite une fragilisation et surtout l'envie d'une concurrence. La nouvelle génération qui arrive derrière n'est pas disposée à tout faire et à tout sacrifier pour sortir Bolsonaro de prison et le porter à la présidentielle pour la campagne de 2026, en sachant qu'il est l'objet d'autres condamnations qui le rendent éligible. Donc ça fracture l'extrême droite, ça fracture l'opinion d'extrême droite et donc ça l'affaiblit en général dans l'opinion et comme camp politique.
Ce procès, cette condamnation, c'est une étape importante nouvelle pour la démocratie brésilienne, en quelques mots.
Alors, c'est une étape absolument fondamentale. La démocratie brésilienne, on la voyait dépérir depuis 2014, au point que le dysfonctionnement institutionnel, la destitution inconstitutionnelle de Dilma Rousseff, l'incarcération illégale de Lula, tout ça donnait l'impression d'une décomposition complète du système, que l'élection de Bolsonaro est venue confirmer. Et au contraire, on a l'impression que finalement, il y avait une résilience du système institutionnel qui se manifeste là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire sur la Cour suprême. Donc, c'est un moment historique pour le Brésil et c'est un moment historique pour le monde, parce que c'est le signe que cette extrême droite qui prend tant de liberté à l'égard de l'état de droit peut affronter un système institutionnel malgré l'ensemble de l'adversité qui s'oppose à elle.
Merci beaucoup, Maud Chiriot. Je rappelle que vous êtes historienne et je redonne le titre de votre dernier ouvrage, Mon cher Lula, Lettre à un président en détention, qui a paru aux éditions Anamosa. C'était en 2022. Et un immense merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bertie Bourdon, Roxane Poulain, Rodi Eken, c'était Margot Page à la réalisation et Edouard Rubinstein aux manettes ce soir à la technique.